Premier jour, des draps blancs dans une armoire.
Des draps rouges dans un lit.
Un enfant dans sa mère dans les douleurs.
Le père dans le couloir.
Le couloir dans
la maison dans la ville.
La ville dans la nuit, la mort dans un cri.
Et l'enfant dans la vie.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne. Mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes fini de mourir.
Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Avec nous dans le studio, Julien Michel, bonjour.
Bonjour.
Marion Grenier.
Bonjour.
Maxime Roger.
Bonjour.
Et Amandine Vincent qui a préparé... Bonjour.
Bonjour.
Qui a préparé cette émission consacrée à Jacques Prévert. Elle a préparé plusieurs sélections de poésie. On va vous lire aussi une petite pièce. Mais avant, pour nous parler de Prévert, Amandine, je te laisse la parole.
Eh ben, donc, pour une petite piqûre de rappel, donc Jacques Prévert est né en 1900, il est mort en 1977. Il a appartenu au mouvement surréaliste avec Duhamel et Breton. Et puis, il a rejoint en 1932 le groupe Octobre, qui est un groupe qui est fasciné en fait, par la révolution russe. Et il est l'auteur principal du groupe et il va écrire plusieurs sketchs politico-satiriques. Voilà. À la base, Prévert n'est pas forcément destiné à l'écriture. Lui, ce qui lui plaît, c'est le cinéma. Il veut vraiment faire des scénarios et il a son petit frère aussi qui a réalisé des films.
Pierre Prévert.
Pierre Prévert, voilà. Tout à fait. Et en fait, c'est un de ses amis qui est éditeur, René Berthelet, qui va un petit peu le harceler pour éditer ses textes et les rassembler dans un recueil. Donc, au départ, il refuse, parce qu'il faut savoir donc Prévert écrivait beaucoup à l'instinct comme ça, et puis il écrivait sur des bouts de nappe, des bouts de papier qu'il donnait un petit peu à des amis. Il y a des textes qui ont été mis en chanson par Joseph Kosma, qui est un grand ami, grand ami de Prévert.
C'est un musicien juif qui l'a caché pendant la guerre.
Tout à fait.
Il a aidé à échapper aux nazis.
Une histoire d'amitié entre deux. Et puis, quelques-uns de ces textes sont publiés dans des magazines. Mais bon, rien de vraiment concret. Donc Berthelet va continuer un peu à le harceler. Finalement, Prévert va craquer. Et donc, il va rassembler ses textes dans un recueil qui s'appelle Paroles, qui est l'un des plus connus et qui va connaître un succès énorme. Ouais. Et donc, à la suite de ça, il décide de continuer à écrire pour notre bonheur. Donc après, il y a Histoire et puis... j'ai plus l'ordre chronologique exact, mais beaucoup de recueils, il y a spectacles, choses et autres. Et beaucoup d'autres encore. Il y en a entre 10 et 15, quoi.
Et facilement. C'est assez paradoxal parce que Prévert, après son certificat d'études, comme il aimait pas l'école, il a arrêté les études.
Ah
direct,
ouais,
quoi.
Ouais, puis c'est un gamin issu de la balle, quoi. Il a un papa qui a pas beaucoup d'argent, il déménage beaucoup, il vivra un peu dans la pauvreté, en fait.
Ouais, puis au début, il faisait des petits métiers à droite à gauche. Je crois qu'il travaillait au grand marché ou au bon marché.
Ouais, ouais, il a fait plein de petits boulots. Ouais. Ouais, puis après, bah voilà, il se retrouve dans ses groupes d'amis avec des gens qui sont aujourd'hui très, très connus. Et donc voilà, donc il réalise aussi, donc il écrit aussi des scénarios.
Ouais.
Pour en citer quelques-uns, il y a Le Jour se lève, Quai des Brumes. Oui. Dans les plus connus,
Le Roi et l'Oiseau. Carnet.
De ouais. Carnet, il travaille beaucoup avec Carnet.
Ouais.
Il y a Le Roi et l'Oiseau, qui est un film d'animation, qui a été réalisé par... comment il s'appelle déjà ?
C'est d'après une nouvelle de Andersen, je sais, qui a, c'est La Bergère et le Ramoneur.
Avec Paul Grimaud, voilà, c'est Paul Grimaud qui l'a réalisé.
Ouais.
Voilà, il y a L'Affaire est dans le sac, Le Crime de Monsieur Lange.
Ouais, de Jean Renoir,
ouais,
Le Crime de Monsieur Lange.
Voilà.
Et puis, il y a Les Enfants du Paradis.
Les Enfants du Paradis.
De Marcel Carnet, que j'ai vu récemment, c'est génial. Sur le théâtre, donc ça devrait intéresser nos auditeurs.
Donc voilà, il travaille avec Renoir, Carnet, son frère Prévert, Grémillon, Paul Grimaud. Voilà, donc pas mal de scénarios à son actif, ce qui sont des très très beaux scénarios. Moi j'ai vu Le Jour se lève, qui est absolument fabuleux.
Il faut voir Quai des Brumes, hein.
Des
ça
Brumes,
passe en ce moment au Comédia pour ceux qui veulent le voir. Le voir sur grand écran avec une copie, j'imagine, restaurée. Je suis pas sûre de moi du tout ce que je suis en train de dire, mais en tous les cas, je sais que ça passe cette semaine au Comédia.
D'accord, bah, super, à voir.
Il faut aller le voir.
Moi je l'ai en DVD, mais du coup, j'irai peut-être le voir au cinéma.
Bah, ouais.
Voilà, donc. On dit de Prévert qu'il est. Que depuis longtemps, il parle en fait à la troisième personne et il a une langue qui est, je trouve aujourd'hui encore très contemporaine, qui est très populaire, familière. C'est un langage familier. Il joue beaucoup avec les mots aussi. Donc on rencontre des poèmes qui sont à la fois très noirs, d'autres qui sont drôles, un peu dans l'absurde, peut-être surréalistes, et qui nous parlent de l'humain, de l'amour, de la guerre, de l'humanité.
À ce propos, juste, tu parles de surréalisme, c'est lui qui a trouvé le terme cadavre exquis.
Voilà.
En parlant des, c'est lui qui a donné le nom, en fait, l'expression cadavre exquis à l'exercice, en fait, stylistique qu'il faisait avec ses amis parce qu'il était en colocation avec tout plein de gens plus ou moins proches du surréalisme.
Oui, oui, bah, il a appartenu à ce groupe-là pendant des années, et puis bon, il a fini par se fâcher, je crois, avec Duhamel.
Ouais, ou Breton. Ouais, je crois qu'il s'est un peu engueulé avec Breton en 1932 et il s'est cassé.
Dans le groupe Octobre.
Oui, voilà, il est parti à Octobre après.
Ouais, voilà. Mais il y a des biographies qui existent qui sont très intéressantes à lire et qui sont passionnantes. On est vraiment plongé dans cette époque-là et le Paris aussi de cette époque-là.
Donc, Amandine nous a fait une sélection de poésie et donc on va vous en lire, notamment le premier poème qui s'appelle La grasse matinée.
Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6h du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe, il imagine une autre tête, une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents, doucement, car le monde se paie sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours. 3 nuits. Sans manger. Et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves. Poisson mort protégé par les boîtes. Boîtes protégées par les vitres. Vitres protégées par les flics. Flics protégées par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot. Café crème et croissant chaud. L'homme titube. Et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardines à manger. Œufs durs, café crème. Café arrosé, rhum. Café crème, café crème. Café crème arrosé, sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit un café arrosé, 0,70 francs. 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
Le miroir brisé. Le petit homme qui chantait sans cesse. Le petit homme qui dansait dans ma tête. Le petit homme de la jeunesse a cassé son lacet de souliers. Et toutes les baraques de la fête, tout d'un coup, se sont écroulées. Et dans le silence de cette fête, dans le désert de cette fête, j'ai entendu ta voix heureuse, ta voix déchirée et fragile, enfantine et désolée, venant de loin et qui m'appelait. Et j'ai mis ma main sur mon cœur où remuaient ensanglantés les 7 éclats de glace de ton rire étoilé.
L'ordre nouveau. Le ciel, le soleil gît sur le sol, litre de vin rouge brisé. Une maison comme un ivrogne sur le pavé s'est écroulée. Et sous son porche encore debout, une jeune fille est allongée. Un homme à genoux près d'elle est en train de l'achever dans la plaie où remue le fer. Le cœur ne cesse de saigner. Et l'homme pousse un cri de guerre comme un absurde cri de paon. Et son cri se perd dans la nuit. Hors la vie, hors du temps. Et l'homme au visage de poussière, l'homme perdu et abîmé, se redresse et crie
« Heil Hitler !»
d'une voix désespérée, en face de lui, dans les débris d'une boutique calcinée, le portrait d'un vieillard blême le regarde avec bonté. Sur sa manche, des étoiles brillent, d'autres aussi sur son képi, comme les étoiles brillent à Noël sur les sapins pour les petits. Et l'homme des sections d'assaut, comme le merveilleux, devant le merveilleux chromo, soudain se retrouve en famille, au cœur même de l'ordre nouveau, et remet son poignard dans sa gaine, et s'en va tout droit devant lui, automate de l'Europe nouvelle, détraqué par le mal du pays. Adieu, adieu, Lily Marlène. Et son pas et son chant s'éloignent dans la nuit, et le portrait du vieillard blême, au milieu des décombres, reste seul et sourit, tranquille dans la pénombre, sénile et sûr de lui.
Dans ma maison. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas à qui elle est. Je suis entré comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu. Mais tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux, je gueulais comme un âne, de toutes mes forces. Et cela me faisait plaisir. Et puis je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin, quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là, ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Faut être bête comme l'homme l'est si souvent, pour dire des choses aussi bêtes, que bête comme ses pieds gais comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, et triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un pinson ? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson.
Pinson ?
Pinson, Pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin Hugo Victor, de son prénom. Bonaparte, Napoléon, de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça ? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval-caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça ? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements. Et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu viendras.
Chanson dans le sang. Il y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu ? Est-ce la terre qui le boit et qui se saoule ? Drôle de soulographie alors. Si sage, si monotone. Non, la terre ne se saoule pas. La terre ne tourne pas de travers. Elle pousse régulièrement sa petite voiture, ses quatre saisons. La pluie, la neige, la grêle, le beau temps. Jamais elle n'est ivre. C'est à peine si elle se permet de temps en temps un malheureux petit volcan. Elle tourne la terre. Elle tourne avec ses arbres, ses jardins, ses maisons. Elle tourne avec ses grandes flaques de sang. Et toutes les choses vivantes tournent avec elle et saignent. Elle s'en fout, la terre. Elle tourne et les choses vivantes se mettent à hurler. Elle s'en fout, elle tourne. Elle n'arrête pas de tourner et le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu ? Le sang des meurtres, le sang des guerres, le sang de la misère et le sang des hommes torturés dans les prisons. Le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman. Et le sang des hommes qui saignent de la tête dans les cabanons. Et le sang du couvreur quand le couvreur glisse et tombe du toit. Et le sang qui arrive et qui coule à grands flots, avec le nouveau-né, avec l'enfant nouveau. La mère qui crie, l'enfant pleure, le sang coule, la terre tourne, la terre n'arrête pas de tourner, le sang n'arrête pas de couler. Où s'en va-t-il tout ce sang répandu ? Le sang des matraqués, des humiliés, des suicidés, des fusillés, des condamnés, et le sang de ceux qui meurent comme ça, par accident. Dans la rue passe un vivant avec tout son sang dedans. Soudain, le voilà mort, et tout son sang est dehors. Et les autres vivants font disparaître le sang. Ils emportent le corps. Mais il était tu, le sang. Et là où était le mort, beaucoup plus tard, tout noir, un peu de sang s'étale encore. Sang coagulé, rouille de la vie, rouille des corps. Sang caillé comme le lait quand il tourne, comme le lait quand il tourne comme la terre qui tourne avec son lait, avec ses vaches, avec ses vivants, avec ses morts, la terre qui tourne avec ses arbres, ses vivants et ses maisons, la terre qui tourne avec les mariages, les enterrements, les coquillages, les régiments, la terre qui tourne et qui tourne et qui tourne avec ses grands ruisseaux de sang.
Vous allez voir ce que vous allez voir.
Une fille nue nage dans la mer.
Un homme barbu marche sur l'eau.
Où est la merveille des merveilles ? Le miracle annoncé plus haut.
Le désespoir est assis sur un banc. Dans un square, sur un banc, il y a un homme qui vous appelle quand on passe. Il a des binocles, un vieux costume gris. Il fume un petit Nina, il est assis. Et il vous appelle quand on passe, ou simplement il vous fait signe. Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas l'écouter. Il faut passer, faire comme si on ne le voyait pas, comme si on ne l'entendait pas. Il faut passer, presser le pas, si vous le regardez, si vous l'écoutez, il vous fait signe et rien. Personne ne peut vous empêcher d'aller vous asseoir près de lui. Alors, il vous regarde et sourit, et vous souffrez atrocement. Et l'homme continue de sourire, et vous souriez du même sourire. Exactement. Plus vous souriez, plus vous souffrez. atrocement. Plus vous souffrez, plus vous souriez, irrémédiablement.
Et vous restez là ?
Assis, figé, souriant sur le banc. Des enfants jouent tout près de vous, des passants passent tranquillement. Des oiseaux s'envolent, quittant un arbre pour un autre.
Et vous restez là, sur le banc ?
Et vous savez que jamais plus vous ne jouerez comme ces enfants. Vous savez que jamais plus vous ne passerez tranquillement comme ces passants. Que jamais plus vous ne vous envolerez, quittant un arbre pour un autre, comme ces oiseaux.
Je suis comme je suis. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois ? Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus ? Que voulez-vous de moi ? Je suis faite pour plaire. Elle n'y peut rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Ce qui m'est arrivé ? Oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment simplement savent aimer. 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 Pourquoi me questionner ? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer.
T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou fausse l'affaire, mais c'est tout, joli môme. Ta violette et le violon qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, une feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme.
Le chat et l'oiseau. Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter et le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat, qui est invité, marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer.
« Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, »
lui dit le chat,
« je t'aurais mangé tout entier, je l'aurais mangé tout entier. Et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler jusqu'au bout du monde, là-bas où c'est tellement loin que jamais on en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. »
Le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil, familièrement.
« Dis donc, camarade soleil, tu trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ?»«
Quelqu'un. Un homme sort de chez lui. C'est très tôt le matin. C'est un homme qui est triste. Cela se voit à sa figure. » Soudain, dans une boîte à ordures, il voit un vieux bottin mondain. Quand on est triste, on passe le temps, et l'homme prend le bottin, le secoue un peu et le feuillette machinalement. Les choses sont comme elles sont. Cet homme si triste est triste parce qu'il s'appelle Ducon. Et il feuillette, et continue à feuilleter. Et il s'arrête à la page des D. Et il regarde à la colonne des DU, du. Et son regard d'homme triste devient plus gai, plus clair. Personne. Vraiment personne ne porte le même nom. Je suis le seul Ducon, dit-il entre ses dents, et il jette le livre, s'époussette les mains, et poursuit fièrement son petit bonhomme de chemin.
S'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui finirent l'air leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vite Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions.
Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marron. Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle. Nous avons lu quelques poèmes de Prévert issus du texte du recueil Paroles et de Histoire.
Et Choses et autres.
Et Choses et autres. Et nous allons maintenant vous lire une pièce qui est issue du recueil Spectacle et qui s'appelle Branle-bas de combat. Première bobine. C'est la nuit. Nous sommes à bord du France, d'abord à bâbord et à tribord, après je vous en prie. Une des plus belles unités de la marine de l'État. Couchés dans leur hamac et bercés par le roulis, les braves petits cols bleus rêvent à leur pauvre mère et à leur cher vieux père. Ceux qui rêvent à leur père murmurent tout doucement « Papa,
papa, papa ».
Ceux qui rêvent à leur mère murmurent tout doucement
« Maman, maman ».
Ceux qui sont orphelins, fils indignes, mauvais sujets ou pupilles de l'assistance publique se taisent et ne rêvent pas. Sur le pont, derrière la grosse tourelle numéro 3, il y a une femme très belle qui fait les 100 pas. Elle est vêtue d'une admirable robe de soirée et tient à la main une tasse à thé. L'amiral arrive avec la théière et le sucrier. Il est en grande tenue et il marche sur la pointe des pieds. Il s'approche de la jeune femme et sans dire un mot la regarde. Et, sans dire un mot, la jeune femme regarde aussi l'amiral. Long silence. Long silence pendant lequel on entend divers bruits, cris d'oiseaux de la mer, mouettes et goélands, clapotis de vent et claquements de drapeaux secoués par le vent. L'amiral se décide à rompre le silence.
Combien de morceaux de sucre, Marie-Thérèse ?
Marie-Thérèse, c'est la jeune femme.
Hélas !
Je m'en doutais.
Il s'approche de la jeune femme, la saisit par le poignet avec une grande délicatesse et la plaçant en pleine lumière, se recule pour juger de l'effet. Soudain, il pousse un cri terrible et jette par-dessus bord la théière et le sucrier, douloureusement pathétique.
Oh, c'est affreux, c'est impossible, je rêve.
Il se pince le bras avec la pince à sucre.
Mais non, je ne rêve pas, c'est la triste vérité. Marie-Thérèse, vous êtes...
Hélas, l'amiral étouffant en sanglots.
Et moi qui...
Et vous qui? Quoi, mon ami?
Et moi qui vous avais placé si haut dans mon estime.
Hélas.
Alors l'amiral s'approche d'elle et lui parle très bas à l'oreille. À l'expression tourmentée de son visage, expressif et tourmenté, on comprend très nettement qu'il lui dit
« Marie-Thérèse, je veux savoir qui est le père. »
Et Marie-Thérèse, tournant alternativement et lentement la tête à droite et à gauche plusieurs fois, on comprend qu'elle refuse de répondre. Alors, l'amiral, oubliant les plus élémentaires notions de la galanterie française, s'oublie jusqu'à tordre les poignets de la malheureuse Marie-Thérèse.
« Répondez, madame. Répondez. »
Marie-Thérèse, avec une grande expression de désespoir strictement mondain.
« C'est votre fils, mon ami. »
L'amiral est alors rempli d'une joie débordante.
« Mon fils ? Et moi qui ? Et moi qui ?
Et vous qui ? Quoi, mon ami ?
Et moi qui vous brutalisais ? Ah ! Fou que j'étais !»
Il arpente le pont en faisant le geste de bercer un enfant. Et Marie-Thérèse le regarde en hochant la tête tristement. L'amiral, amusant le bébé avec la pince à sucre.
« Mon fils, Kili-Kili, où est-il son petit papa ? Coucou, c'est l'amiral, il est là, le voilà. Kili-Kili, Kili-Kili, garde à vous, au drapeau !»
Tout le monde sur le pont pour voir mon petit fiston.
Mais soudain, sa joie se fige. L'amiral, avec une expression d'inquiétude subite.
Mais comment pouvez-vous savoir, Marie-Thérèse, si c'est un garçon ou une fille ?
Marie-Thérèse, douloureusement cornélienne, avec beaucoup de tenue.
Hélas, mon ami, quand tout à l'heure je vous ai dit « c'est votre fils », hélas, j'ai voulu dire « c'est votre fils, le père ».
L'amiral, dont l'angoisse grandit à vue d'œil.
Stanislas ?
Hélas.
Mon propre fils.
Il s'écroule sur le banc de car et reste environ 10 minutes, la tête entre ses mains. Les 10 minutes écoulées, il relève la tête. On s'aperçoit alors qu'il a vieilli de 10 ans. À cet instant, de derrière la tourelle numéro 3, surgit un lieutenant de vaisseau, beau, fort garçon, mais au trait visiblement crispé par la jalousie.
Stanislas ?
Vous ici, Marie-Thérèse, en pleine nuit avec mon père.
Hélas !
L'amiral, avec un grand geste de découragement.
Hélas ! Hélas ! Évidemment !
Stanislas alors s'approche de Marie-Thérèse et, oubliant lui aussi les plus élémentaires notions de galanterie française, s'oublie jusqu'à lui tordre les poignets. L'amiral, hochant la tête et parlant entre ses dents.
T'es le père, t'es le fils, t'es le fils, t'es le petit-fils, et ainsi de suite, la vie continue.
Il lève les yeux au ciel et deux grosses larmes coulent sur ses joues.
La vie est une immense farce, et nous sommes les pantins dont Dieu tire les ficelles.
Stanislas secoue de plus en plus fort Marie-Thérèse.
Répondez, Marie-Thérèse, répondez!
Vous me faites mal, Stanislas!
Stanislas, sans l'écouter, est en proie à une fureur grandissante.
Répondez, qu'est-ce que vous attendez pour me répondre, Marie-Thérèse? Qu'est-ce que vous attendez?
Marie-Thérèse, secouée, bouleversée, ulcérée, mais avec une grande dignité.
J'attends un bébé!
Stanislas laisse le bras de Marie-Thérèse et se jette sur son père.
Misérable!
Il lève la main sur son père. L'amiral, très digne, très calme.
Est-ce à l'amiral que vous parlez, lieutenant ? Ou est-ce à ton père que tu parles, Stanislas ?
Stanislas, les dents serrées.
Je parle au misérable père de celui ou de celle qui aurait dû être mon enfant.
L'amiral, douloureusement lucide.
Imbécile.
Ah, sois poli, papa.
Il le frappe au visage.
Ah ! Ça, par exemple. L'amiral n'est pas méchant, mais quand on l'attaque, il se défend.
Il saisit Stanislas à la gorge. Vous n'allez pas vous battre comme des chiffonniers.
C'est juste.
Pardon, papa. Excusez mon amiral.
L'amiral sourit alors avec une grande bonté. Il ouvre les bras et Stanislas se jette dedans.
Mon petit gars, mon petit fiston, je te donne ma parole d'honneur que c'est toi le père.
À cet instant, Marie-Thérèse pousse un éclat de rire strident.
Excusez-moi, c'est nerveux.
L'amiral attirant son fils près de lui et lui parlant à l'oreille.
Prends bien soin d'elle, mon petit. La grossesse nerveuse, c'est mauvais. Bonsoir.
Puis, avec un étrange sourire.
Bonsoir. Bonne nuit. Je vais me coucher.
Il fait quelques pas et dans son regard, on peut lire qu'il vient de prendre une décision tragique. Stanislas à Marie-Thérèse avec une grande expression d'inquiétude.
Je suis inquiet.
Je ne veux pas être un obstacle à votre bonheur. Adieu, vivez en paix, croissez et multipliez-vous.
Il enjambe le bastringage et se jette à la mer. L'amiral en tombant.
Vive la France !
Stanislas se précipitant.
Papa, amiral, papa, amiral, papa, amiral.
Puis puis, il a exactement l'expression de l'homme qui va hurler. « Un homme à la mer !» Mais de derrière la grosse tourelle numéro 3, surgit un marin au regard fuyant. Il tient à la main une matraque, il la lève, il la baisse et Stanislas s'écroule. Le marin s'approche alors de Marie-Thérèse et commence avec elle une très longue conversation en allemand. En haut, dans la cabine de la radio, le radiotélégraphiste reçoit un message bouleversant. Il se dresse, met la main à son cœur, se rassoit.
« La guerre !»
Fin de la première bobine. Deuxième bobine. Dans l'ombre, soutenu par Marie-Thérèse, Stanislas reprend peu à peu connaissance. Marie-Thérèse le regarde et son regard est douloureusement et énigmatique en même temps. Stanislas, l'œil hagard.
Où suis-je ? Qui suis-je ? D'où viens-je ? Où allons-nous ? Comment allons-nous ? Merci beaucoup, et vous-même ?
Marie-Thérèse l'interrompt avec une extrême douceur.
Calmez-vous, mon ami, vous avez la fièvre.
La fièvre ?
Sentant le brouillard se dissiper.
Ah, je me rappelle. Marie-Thérèse, on m'a frappé lâchement dans le dos, sur la tête.
Calmez-vous.
Oh, je me rappelle, c'était affreux. Mon pauvre fils s'est jeté à la mer.
Marie-Thérèse, de plus en plus inquiète.
Il s'est tué, mon pauvre Stanislas, et me voilà orphelin maintenant. Et pourtant, c'est peut-être sans doute lui le véritable père de votre petit enfant.
Marie-Thérèse le secoue.
Oh, mon ami, ce n'est pas possible. Auriez-vous perdu la raison ?
Stanislas est avec un bon sourire.
La tête de l'amiral est solide.
Il se touche la tête.
Une vraie tête de breton. Et pourtant, je suis né à Limoges, sous-préfecture Tassaté. Petite soucoupe, petite cuillère.
Soudain, il recommence à pleurer.
Stanislas, mon pauvre petit fiston.
Marie-Thérèse, haletante et bouleversée.
Protégez-nous, mon Dieu !
Soudain. On entend plusieurs bruits. Une sirène, une sonnerie de clairons, quelques roulements de tambour et trois coups de canon.
Que se passe-t-il ?
Je ne sais pas.
Moi non plus.
Hélas !
À cet instant, l'aumônier du bord traverse le pont. Il a un bidon en bandoulière et un béret au pompon rouge, délicatement posé sur l'oreille. L'aumônier titubant légèrement.
Comme de long vient le soleil à bord, sous la tonnelle on fera son jupon.
Stanislas, surpris.
Qui est cette dame ?
Mais c'est le père Ratonnet, l'aumônier du bord, voyons.
Ah oui, on dirait qu'il a bu.
Oh, quelle horreur !
Elle se signe. Stanislas, subitement jaloux et lui tordant le poignet.
Pourquoi lui faites-vous signe ?
Mais je ne lui fais pas un signe, je fais le signe de la croix.
Excusez-moi.
L'aumônier s'approche et s'incline devant Marie-Thérèse.
Madame.
Qu'y a-t-il, mon père ?
L'aumônier avec un bon sourire.
La guerre, madame, la guerre.
Il s'éloigne en fredonnant.
Quand Matelon vient nous sourire à bord.
Stanislas, réalisant peu à peu la situation.
La guerre.
Hélas !
La guerre, sacré nom de Dieu, la guerre. À mon commandement, tout le monde sur le pont. Branle-bas de combat naval, nettoyez vos pompons, astiquez les torpilles et graissez les canons. Errant, petit patapan. Pas plus tard que dans 5 minutes, revue de courroie de bidon.
Oh, calmez-vous, vous êtes malade, très souffrant, et je suis certaine que si l'on prenait votre température...
Ma température ! Prendre ma température ! Qu'ils y viennent, s'ils l'osent !
Mon ami !
Oh, je sais ce que vous allez me dire, Marie-Thérèse. Les Japonais ont pris Port Arthur, je sais. Mais il est une chose que je puis affirmer, c'est que jamais, jamais, ils ne prendront la température de l'amiral grattier du tendon.
Vous êtes fou, mon ami, mais vous êtes sublime.
Elle tombe dans ses bras.
Marie-Thérèse.
Puis, avec un petit soupir de regret.
Excusez-moi, Marie-Thérèse, mais je dois rejoindre ma cabine et revêtir ma tenue de guerre. Casquette plate, guêtre molle et monocle bleu horizon.
Il claque des talons et s'éloigne. Le marin, au regard fuyant, surgit de derrière la tourelle, s'approche de Marie-Thérèse et, à voix basse et en allemand, ils reprennent leur mystérieuse conversation. Au loin, l'escadre ennemie s'avance. Au-dessus de l'escadre ennemie, les hydravions. Au-dessous, des sous-marins. Au bord du « France d'abord à bâbord et à tribord après, je vous en prie », règne une grande animation, atmosphère de saine et joyeuse gravité. Le père Ratonnet, le véritable et vénérable aumônier du bord, s'entretient avec le commandant Pontarrière, vraie figure de loup de mer, esclave du devoir, mais bon vivant comme pas un.
Eh oui, la guerre a ses bons et ses mauvais côtés. Mais ce sont ses bons côtés qui sont les meilleurs.
Ah oui, à la guerre, comme on dit.
Ah, vous l'avez dit. Tenez, regardez donc l'amiral au tendon.
Il a rajeuni de 20 ans.
Le commandant Pontarlier regarde avec le directeur la direction indiquée par le père Ratonnet. En grande tenue, Stanislas, que tout le monde prend pour l'amiral, étant donné les exigences du scénario et la ressemblance entre lui et son père, arpente le pont. Un officier s'approche.
Vous cherchez quelqu'un, amiral ?
Je cherche mon fils.
À cet instant, un coup de canon.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est l'escadre ennemie, sans doute.
Bien. Je vais donner des ordres et le combat naval va commencer. Au drapeau, hissez les trois couleurs.
Tout le monde regarde en l'air, le petit doigt sur la couture du pantalon. Un marin hisse les trois couleurs, mais soudain, tout le monde blêmit. L'amiral, alias Stanislas, regardant les trois couleurs...
Il en manque une. Nous sommes trahis. Et ils ont laissé le rouge pour nous porter malheur.
Il faut passer le temps. À Agnès Capri. On croit que c'est facile de ne rien faire du tout. Au fond, c'est difficile. C'est difficile comme tout. Il faut passer le temps, c'est tout un travail. Il faut passer le temps, c'est un travail de titan. Ah, du matin au soir, je ne faisais rien. Ah, quelle drôle de chose. Du matin au soir, du soir au matin, je faisais la même chose. Rien. Je ne faisais rien. J'avais les moyens. Oh, quelle triste histoire. J'aurais pu tout avoir, oui. Ce que j'aurais voulu, si je l'avais voulu, je l'aurais eu. Mais je n'avais envie de rien. Rien. Un jour, pourtant, je vis un chien. Ce chien qui me plut, je l'eus. C'était un grand chien, un chien de berger. Mais la pauvre bête, comme elle s'ennuyait de son maître. Un vieil écossais. Ah, j'ai acheté son maître, j'avais les moyens. Ah, quel drôle d'écho. Quel drôle d'écossais que c'était que le berger de mon chien. Toute la journée, il pleurait. Toute la nuit, il sanglotait. C'était tout à fait insensé. L'écossais dépérissait. Il ne voulait rien entendre. Il parlait même de se pendre. J'aime mieux mes moutons, chantait-il en écossais. Et le chien aboyait. En l'entendant chanter, j'avais les moyens. J'achetais les moutons. Je les mis dans mon salon. Alors, ils broutèrent mes tapis et puis ils crevèrent d'ennui. Et dans la tombe, l'écossais les suivit. Ah, et le chien aussi. C'est alors que je partis en croisière pour me calmer mes petits nerfs.
Futuralisme. Dans les corridors sururbains de la supercité, les agents de l'intelligence publique demanderont aux passants, s'il en reste, leurs idées, leur permis d'idéologie surveillée et, dans la plupart des cas, leur UIT, unique idée tolérée. Ceux qui ne seront pas en règle seront appréhendés et dirigés vers le bloc opératoire culturel et universel. L'élucubrator les conduira aux greffes de la culpabilité collective et de la responsabilité dirigée. Là, les grands manipulateurs leur perforeront le ticket socio-cérébral et ils seront remis en liberté maniable, manœuvrale et manutentionnée.
Quand tu dors. Toi, tu dors la nuit. Moi, j'ai de l'insomnie. Je te vois dormir. Ça me fait souffrir. Tes yeux fermés, ton grand corps allongé. C'est drôle, mais ça me fait pleurer. Et soudain, voilà que tu ris. Tu ris aux éclats en dormant. Où donc es-tu en ce moment ? Où donc es-tu parti vraiment ? Peut-être avec une autre femme très loin dans un autre pays et qu'avec elle c'est de moi que tu ris ? Toi, tu dors la nuit. Moi j'ai de l'insomnie. Je te vois dormir. Ça me fait souffrir. Lorsque tu dors, je ne sais pas si tu m'aimes. T'es tout près mais si loin quand même. Je suis toute nue, serrée contre toi. Mais c'est comme si j'étais pas là. J'entends pourtant ton cœur qui bat. Je ne sais pas s'il bat pour moi, je ne sais rien, je ne sais plus. Je voudrais qu'il ne batte plus ton cœur si jamais un jour tu ne m'aimais plus. Toi, tu rêves la nuit. Moi, j'ai de l'insomnie. Je te vois rêver et ça me fait pleurer. Toutes les nuits, je pleure, toute la nuit. Et toi, tu rêves et tu souris. Mais cela ne peut plus durer. Une nuit sûrement, je te tuerai.
tes rêves alors seront finis. Et comme je me tuerai aussi, finis aussi mon insomnie. Nos deux cadavres réunis dormiront ensemble dans notre grand lit. Toi, tu rêves la nuit. Moi, j'ai de l'insomnie. Je te vois rêver. Ça me fait pleurer. Voilà le jour. Et soudain, tu t'éveilles. Et c'est à moi que tu souris. Tu souris avec le soleil. Et je ne pense plus à la nuit. Tu dis les mots, toujours pareils. As-tu passé une bonne nuit? Et je réponds comme la veille. Oui, mon chéri, j'ai bien dormi. Et j'ai rêvé de toi comme chaque nuit. Mai 1968.
On ferme !
Cri du cœur des gardiens du musée, homme usé. Cri du cœur agreffé, à rafistoler. Cri d'un cœur exténué.
On ferme !
On ferme la cinémathèque et la Sorbonne avec.
On ferme !
On verrouille l'espoir, on cloître les idées.
On ferme !
ORTF bouclé. Vérité séquestrée. Jeunesse bâillonnée.
On ferme.
Et si la jeunesse ouvre la bouche, par la force des choses, par la force de l'ordre, on la lui fait fermer.
On ferme.
Mais la jeunesse à terre, matraquée, piétinée, gazée et aveuglée, se relève pour forcer les grandes portes ouvertes, les portes d'un passé mensonger, périmé.
On ouvre
sur la vie, la solidarité et sur la liberté de la lucidité.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Bien sur le théâtre de la Gamelle, donc nous venons de lire des poèmes de Prévert, on a lu Branle-bas de combat dans le spectacle, et puis maintenant on laisse la parole à Clara pour la chronique hebdomadaire de la Gamelle.
Une chronique qui tombe bien, merci Anaïs, puisque je fais aujourd'hui une chronique sur Gwenaël Morin qui lui ouvre le théâtre, donc on prend la suite de Prévert. Et oui, hier soir, je suis allée mener ma petite enquête au cœur des 40 jours d'antithéâtre proposé par Gwenaël Morin et sa troupe au Théâtre du Point du Jour. Mais qu'est-ce que l'antithéâtre, me direz-vous ? Eh bien, à l'origine, c'était le nom de la troupe de Rainer Werner Fassbinder, l'auteur à l'honneur. Et pour l'occasion, c'est aussi le nom de l'événement proposé par Gwenaël Morin au Point du Jour. 40 jours de théâtre qui ont débuté en septembre et s'achèveront en décembre. Du 1er au 9 de chaque mois, le public peut venir tous les soirs assister aux répétitions. Et le 10, une représentation unique est proposée. Je vais vous lire ce que Gwenaël Morin dit de l'antithéâtre. Déjà, pour lui, l'antithéâtre n'est pas anti-théâtre. Antithéâtre est contre le théâtre que les hommes se jouent à eux-mêmes. Antithéâtre est contre les conventions. Antithéâtre est contre la morale. Antithéâtre est contre la belle mécanique du « c'est comme ça » qui, irréversiblement, reconduit avec lassitude la même catastrophe. Antithéâtre est non aligné, non réconcilié, non consolable. Antithéâtre est excès. Antithéâtre est chaos. Antithéâtre est catastrophe contre la catastrophe. Dans le cycle antithéâtre, donc, il nous propose quatre pièces majeures de l'œuvre de Fassbinder. Anarchie en Bavière, Liberté à Brême, Goutte d'eau dans l'océan et Village en flammes. Hier, nous étions le 8, c'était donc le 8e jour des répétitions de Goutte d'eau dans l'océan. Nous sommes entrés dans la salle par le plateau. La scène avait été prolongée jusqu'au gradin. Gwenaël Morin est venu nous souhaiter la bienvenue dans ce 28e jour d'antithéâtre. Et à son signal, le rideau se refermait sur la cage de scène, laissant pour espace de jeu aux acteurs l'espace entre les gradins et le début de la cage de scène. La répétition commençait. Il s'agissait en fait d'un filage déjà très abouti en cet avant-dernier jour de répétition. Les lumières publiques sont restées allumées durant toute la répétition et les acteurs ont investi tous les lieux, gradins, couloirs, régies et même parfois ce qui est traditionnellement la scène, cachée par le rideau. Nous étions littéralement pris entre deux feux dans cette histoire de couple violente, cruelle, grinçante, comme en témoigne cet extrait.
Tu veux même pas rester toujours aussi ? Toujours est un grand mot. Mon Dieu, un jour tu vas simplement t'amener avec quelqu'un et je serai réveillé des listes.
Mais c'est absurde. Je viens de te dire qu'il ne me viendrait pas l'idée de coucher avec d'autres.
Aujourd'hui, peut-être pas encore, mais un jour.
Mais qu'on en prendra quoi ? Je ne fais absolument rien pour te donner des idées pareilles.
Qu'est-ce qui pourra bien venir après ?
Mon Dieu, mais tu peux mettre vraiment mettre les gens à bout de nerf ! C'est vraiment compliqué avec toi ! Et pourquoi c'est compliqué avec moi ?
J'en ai tout à fait marre !
Et pourquoi ? Je suis pourtant là !
Ouais, tu es là !
Mais !
Lundi, tu repars, et alors je devrais attendre encore une fois toute une semaine !
Qu'est-ce que t'as fait à venir toute la semaine ?
Ah, si on prend les choses comme ça, presque rien ! Mais j'ai été sans arrêt dehors ! Je sais pas non plus, rien de colle vraiment ! Je suis allé à l'école ! J'ai cherché un appartement !
Hé !
J'en ai trouvé un ! Ouais, donc ? Non, en fait, j'en ai pas trouvé, parce que c'est super dur.
Je vais avoir super dur à trouver un appartement en location tout à fait ordinaire.
T'as qu'à demander aux autres gens qui cherchent également des appartements. C'est sacrément difficile ici. J'en ai vu un qui était très beau. Je croyais l'avoir, mais voilà, il coûte 380 marques.
C'est trop cher. Et quoi d'autre ?
Quoi d'autre ?
Oui, qu'est-ce que t'as fait d'autre ?
J'ai fait le ménage dans l'appartement.
lavé les rideaux, les chaussettes, j'ai nettoyé et ciré le parquet.
Mais pas du tout.
Je l'ai pourtant ciré, le bois est trop rugueux.
Tu n'as pas passé la paille de fer?
Non, je savais pas qu'il fallait passer la paille de fer. La prochaine fois, je passerai la paille de fer. Je sais pas, j'ai cherché un job.
Hé hey.
J'en ai trouvé un.
Ouais, quoi donc?
Dans une maison d'édition.
Qu'est-ce que tu dois y faire?
Ça, je sais pas encore très bien moi-même. On verra.
Combien tu gagneras, là?
3 marques de l'heure. Quelque chose comme ça. Mais je peux arriver et partir quand je veux. Je vais pas bien!
Et pour autant, on est constamment du témoin du théâtre en train de se faire avec ce qui lui tombe sous la main. Les acteurs font les bruitages, le dring-dring de la sonnerie du téléphone, la lance à incendie sert de téléphone, les noires scènes et certaines didascalies sont annoncées par le metteur en scène. De lui, seulement quelques interventions à la fin du dernier acte et quelques gestes. Mais je ne reviendrai pas plus ici en détail sur le travail de Gwenaëlle Morin pour la bonne raison que nous espérons très prochainement l'accueillir dans nos studios, ici à la Gamelle, et qu'il en parlera mieux que moi. Mais pour rester fidèle à son engagement d'ouvrir et de transmettre le théâtre aux spectateurs, c'est à eux que je laisserai la parole.
Moi, fin du premier acte.
Les témoignages. J'ai d'abord été curieuse de connaître qui, parmi ce public qui était hier soir assez jeune, avec beaucoup d'élèves d'option théâtre, suivait l'aventure avec assiduité. Mais s'il y avait quelques découvreurs, j'ai rencontré une majorité de Morins addicts qui aiment à revenir plusieurs fois au cours des répétitions. Deux perceptions, donc, du côté des connaisseurs, voilà ce qui pouvait se dire.
Comme j'ai vu un autre Fassbinder là il y a quelques semaines, ou en septembre, je ne sais plus bien, en fait on voit vraiment les pièces qui se répondent en fait, l'une à l'autre, et puis l'obsession des relations de pouvoir dans le couple, etc. Enfin, du coup ça fonctionne super bien ça, de voir les ouais. pièces en parallèle comme ça.
Ah ouais. Du coup, ça donne même l'impression que les acteurs, les rôles se mélangent aussi. C'est assez intéressant.
Oui, c'est ce que je disais en sortant, là, c'est que ça donne envie de venir voir à nouveau. Dans quel état ce sera, oui, sous peu.
Ça fait 4 ans même que je connais cet univers et j'aime beaucoup. Après, ça fait moins longtemps que
Mais je trouve que c'est super intéressant. Ouais. On n'a pas l'habitude et ça change.
C'est vrai que moi, la première fois, ça m'a. Enfin, on ne voit pas l'habitude de voir du théâtre comme ça, avec des grands écriteaux écrits en noir. Là, je me rappelle, j'étais allée voir quoi, c'était Bérénice, quelque chose comme ça. Et la salle était remplie de marqueurs noirs. Et, j'avais trouvé ça assez bien. C'est original.
Et ouais, ce qui te plaît du coup dans le travail
c'est cet univers qui est assez.
Son univers plastique aussi.
Ouais,
du coup.
Il fait ça avec ce qu'il a. Là, le téléphone, il a pris quoi? Il a pris un tuyau de. Enfin voilà, il fait vraiment avec ce qu'il a sous la main.
Il se sert de ce qui est là et il ne va pas chercher à trouver autre chose. Il se sert de. Des matériaux présents et il fait avec et en fait ça rend plutôt bien.
Et du côté des découvreurs,
au départ je m'attendais à avoir des répétitions arrêtées, un peu comme la manière qu'ils avaient de construire et de travailler au fur et à mesure à l'Élysée. Mais après, je ne sais pas, si j'étais venue le 1er novembre, peut-être que ça aurait été différent. Là il y a déjà 7 jours, 8 jours qui sont passés.
On se laisse, au début on est un peu, moi j'étais un peu sur la réserve, un peu savoir ce que ça allait être, est-ce que c'était vraiment une pièce qui était finie, est-ce que c'était plutôt à l'état de répétition, s'il y aurait plus d'interventions ou pas, du metteur en scène, juste comme ça je me demandais vraiment, et puis je me suis laissée complètement prendre.
J'ai ensuite cherché à savoir à quoi ils avaient été sensibles, et on m'a beaucoup parlé de la pertinence du travail des acteurs et de cette liberté que leur donne un code de jeu non réaliste, une scénographie extrêmement épurée, ramenée à l'essentiel et centrée sur le texte et la situation.
Bah là, ce que j'ai trouvé de pas de cohérent, mais de en lien avec le reste, c'est qu'ils privilégient à chaque fois toujours l'acteur et l'invention de l'acteur, et c'est très du théâtre de situation. Et c'est vrai qu'en ce moment, en tout cas moi au théâtre, je vois pas beaucoup de théâtre de situation. Du coup, c'est intéressant de voir des comédiens s'en emparer. Et du coup, il y a une liberté de jeu et de création sur le plateau d'imagination qui est plus importante du coup.
Aspect conceptuel, alors au début j'étais un peu réticente, moi j'avais un peu peur que ce soit, je sais pas, trop intello ou trop... Et en fait non, on a vraiment le... Enfin voilà, on est au théâtre, on est... À la fois on voit tout le dispositif, on voit que tout est en jeu, enfin là avec le tuyau, le téléphone, tout ça. Et en même temps, des fois c'est un peu potache, ça fait du bien, quoi. Il y a des décalages.
Ça, la connivence aussi avec le public.
Parce qu'au début,
oui, ça c'est marrant. Ouais. Quand elle arrive, personne qui aime si bien.
On casse le téléphone en permanence.
C'est ça. Une adresse directe d'un seul coup, ouvert. Non, c'est que pour vous.
Des fois, on est au théâtre ce soir, un peu comme c'est eux. C'est une bonne surprise, une surprise quand même. Il y a de la ressource, ce garçon.
Après, ce qui est intéressant, enfin, ce que je trouve bluffant à chaque fois, c'est que le fait qu'on soit sans artifice du tout. Du coup, le texte nous arrive et il y a des choses qui se passent voilà, sans éclairage, sans costume, sans accessoires et tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y a tout. Enfin, moi, j'avais peur. Là, ça fait la troisième fois. Je me suis dit, mais c'est un dispositif qui doit s'user, quoi.
Ouais. Et
voilà, on a tenté, quoi. Pour l'instant, non.
Pas encore.
Le spectacle en trois mots, ça donne ça.
C'est une expérience.
Cité, originalité.
J'ai trouvé ça très gai.
Vrai.
Découverte.
C'est une expérience. Ouais. Pour le spectateur et pour les acteurs, j'imagine.
Ouais. J'étais quand même un peu surpris. Là.
Donc le côté surprenant.
Convivial.
Donc surprenant. Ouais. Mais prenant aussi, enfin, on est emmené dans l'histoire, enfin dans le jeu d'acteur. Et le troisième, à renouveler.
Avant de vous quitter, je tenais à remercier chaleureusement la compagnie Gwenaëlle Morin de nous avoir accueillis et laissé capturer un bout du spectacle, ainsi que les spectateurs qui ont bien voulu nous donner leurs impressions. Ah oui, j'ai un petit message à passer pour Pierre Germain, qui jouait Léopold hier soir, de la part de certaines de ses élèves qui étaient dans la salle hier.
Bon anniversaire!
Voilà. Pour les curieux, ce soir, il y a encore une répétition publique. C'est à 20h au Théâtre du Point du Jour. Et samedi, la seule et unique représentation de Goutte d'eau, qui est toujours à 20h au Théâtre du Point du Jour. Et je ne résiste pas, je vous quitte avec un dernier petit extrait du spectacle qui correspond bien à mon point de vue personnel.